Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Moulima.
La MONUSCO a fermé sa base militaire temporaire à Biboko Boko dans le territoire d'Ouvira. La population victime des exactions des groupes armés s'en inquiète, mais le chef de bureau de la MONUSCO dans la région rassure de l'appui de la MONUSCO au FRDC, à qui revient la charge d'assurer la sécurité de la population. Le ministre de l'économie dénonce la supercherie des opérateurs économiques dans la structure des prix de poissons chinchards. Ces derniers incorporent d'autres éléments dans la structure qui impactent négativement le pouvoir d'achat de la population. Jean-Marie Kalumba les appelle au respect des règles. Programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation, ces défis pour sa réussite dans la région des Béni. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal le coordonnateur national de ce programme, Tommy Tamboui. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Au sud Kivu, la MONUSCO a fermé sa base militaire installée temporairement depuis novembre dernier à Biboko Boko dans les territoires d'Uvira. Une fermeture qui suscite des inquiétudes au sein de la population civile victime des attaques des groupes armés avant l'installation de cette base temporaire de la MONUSCO dans la région. Quant aux spéculations de la population après la fermeture de cette base militaire de la MONUSCO à Biboko Boko, le chef de bureau Karnasoro rassure les populations ainsi que les autorités congolaises de l'appui de la MONUSCO au FRDC qui ont la charge de la sécurité des personnes et de leurs biens dans la zone. Karnasoro se veut rassurant et s'exprime au micro de Rachel Kessembao.
Je voudrais rassurer toute la population, rassurer les autorités que la MONUSCO, dans le cadre de son mandat, reste à leur disposition pour appuyer les autorités nationales. Cela est très important. Le mandat est très clair. Nous sommes ici pour appuyer les autorités nationales qui sont bel et bien sur le terrain. Hier encore, le commandant de la troisième zone était à Uvira pour discuter avec les troupes. Par la suite, il a eu une discussion avec le commandant de secteur de la MONUSCO. Personnellement, nous travaillons avec les commandants de région, nous travaillons avec les commandements des deux secteurs opérationnels au quotidien pour nous assurer que les populations puissent vaquer à leurs occupations et pouvoir les protéger. Donc je voudrais vraiment rassurer les populations et leur dire que nous sommes aux côtés des autorités et que en cas de besoin, nous serons là et que nous interviendrons en cas de besoin naturellement en appui aux autorités.
Justement, en ce qui concerne le retrait de la MONUSCO, le plan de retrait stratégique et responsable de la RDC a été ce jeudi au centre des discussions entre les différents acteurs et partenaires de la société civile de la RDC et la MONUSCO au Nord Kivu. Plusieurs questions par rapport à ce plan de transition pour le retrait définitif de la MONUSCO en RDC ont été passé au peigne fin par les participants. C'est entre autres le transfert des compétences entre la MONUSCO et les institutions du pays, ainsi jusqu'aux agences du système de Nations Unies. Mais quel sera exactement le rôle de la société civile pendant cette période de la transition à venir? Suivez les explications du coordonnateur national du cadre des concertations de la société civile, la RDC. Dany Singoma explique au micro de Gabriel Waminga.
Notre rôle est défini dans les plans de transition de la MONUSCO auxquels nous avons participé parce que la société civile a été partie prenante pour l'élaboration de ces plans ou la validation de ces plans. Nous pensons que le rôle de la société civile est effectivement de suivre la mise en œuvre et aussi dans la partie relèvement communautaire et stabilisation. Nous pensons que nous avons un rôle à jouer ou parce que nous sommes plus proches des populations et à travers les différentes structures de la société civile au niveau provincial et au niveau des territoires, il faut vraiment qu'il y ait un appui nécessaire et de la part du gouvernement et de la part des Nations Unies pour que la société civile joue un rôle de fond dans cette histoire. Parce qu'il nous faut vraiment faire le suivi, faire le monitoring de tout ce qui a été fait. Il y a des benchmarks qui existent. Il faut qu'il y ait quand même des alertes par rapport à ce que nous reculons ou bien nous avançons. Et c'est ça le rôle de la société civile. Mais malheureusement, ça prend du retard. Le groupe conjoint de travail n'est pas encore mis vraiment en place ou n'a pas été convoqué. L'opérationnalisation de ces plans de transition pose encore problème, mais nous avons confiance qu'avec l'atelier que nous organisons, nous allons réfléchir sur notre implication et avoir des propositions à apporter à nos partenaires pour qu'ils puissent nous soutenir pour la suite.
Pendant ces temps à Béni, le Conseil urbain de la jeunesse hausse le ton sur ce qu'il qualifie de piraterie des uniformes de militaires au front dans les territoires de Béni. Cette position intervient après les dernières alertes contenues dans un communiqué conjoint UPDF-FRDC sur la disposition des informations fiables sur la présence des éléments des groupes armés pour discréditer la performance de ces opérations. Cette structure de la jeunesse demande que les auteurs soient traduits en justice. Benjamin Assimoni, premier vice-président du conseil urbain de la jeunesse dans la ville de Béni, en explique au micro de Marc Maroufimbo.
Il est arrivé des fois que les rebelles qui ont endeuillé, qui ont tué nos frères et sœurs, soient venus en tenue semblable à celle des FARDC, et cela a fait à ce que la confiance de la population, de la jeunesse envers l'armée congolaise soit un peu en déséquilibre, et que maintenant, si l'UPDF qui est venu apporter un nouveau souffle d'espoir envers la population aussi se tomberait dans cette situation de manque de confiance suite surtout à la piraterie des Satni et qui fait objet de certains camouflages dans la région de Beni, nous demanderons en qualité d'organe consultatif de la jeunesse, nous sommes en train de demander que les audiences sérieuses soient organisées à l'endroit de ceux-là qui ont été arrêtés pour qu'ils puissent directement dire devant leur juge naturel les personnes qui sont les auteurs de cette pratique qui vise à instaurer le doute entre la population et les opérations conjointes qui sont en train, normalement, en train d'avancer comme il se doit et positivement.
Autre nouvelle, la population habitant l'agglomération de Mwenge dans le territoire de Lukula au Congo central s'est faite justice hier en brûlant vif trois voleurs de bétail surpris les mains dans les sacs. Le colonel Munga Malasi, commandant de la police territoriale de Lukula, qui confirme les faits, laisse entendre que c'est par manque des moyens de transport propres au commissariat de la police de Lukula que la foule en furie a pu arracher ces voleurs des mains de la police pour les brûler. Le récit de fait avec Nana Plurich Mambou.
Selon le commandant du commissariat territorial de Lukula, Munga Malasi, ces voleurs au nombre de 4 sont venus de Boma. Ils ont été surpris vers 4h du matin le mercredi par la population pendant qu'ils volaient des chèvres, puis mis à la disposition de la police. Ayant appris cette nouvelle, une foule nombreuse venue des villages environnants, fatiguée des vols récurrents de leur bétail, ont pris d'assaut les postes de la police de Mwenge pour exiger à la police la tête de ces malfrats. Selon des témoins, la police qui a réussi à disperser la foule à l'aide des gaz lacrymogènes a profité pour sortir ces 4 voleurs afin de les acheminer au commissariat territorial de la police de Lukula, situé à près de 12 km de l'agglomération de Mwenge. Vu que ce transfèrement s'est fait à pied puisque la police ne dispose même pas d'un vélo, la population les a interceptés en cours de route. Elle a commencé par lyncher ces voleurs jusqu'à brûler vif 3 parmi eux, a affirmé la même source. Le commandant territorial de la police de Lukula qui déplore ces drames indique que comme la nationale numéro 1, la route nationale numéro 12 aussi est gangrénée par l'insécurité. Ces derniers plaident auprès de sa hiérarchie pour une dotation en charrois automobile pour que pareil drame ne se reproduise plus dans l'avenir. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Et puis en plus bref, procès sur le meurtre des 2 experts de l'ONU tués au Kasaï. Les avocats des prévenus ont clôturé ce jeudi les plaidoiries en faveur de leurs clients. Dans le dernier collectif, l'avocate Berthe Bitota a, dans sa défense, sollicité à la cour l'acquittement de Vincent, considéré par le ministère public comme un acteur majeur dans la mise à mort des Zaïda Catalane et Michael Sharp. Dans sa réplique, l'officier du ministère public a simplement indiqué que Vincent Manga avait reconnu dans un procès verbal avoir été à Moyo Musuila, lieu du meurtre en renfort à d'autres miliciens. Disponibilité et les prix des poissons chinchards sur le marché, les opérateurs économiques violent unilatéralement la structure normale des prix et présentent des déclarations avec des valeurs minorées de leurs marchandises au dédouanement. Affirmation du ministre congolais de l'économie qui rassure par ailleurs de la disponibilité d'un stock suffisant jusqu'à fin janvier et du respect des règles dans la chaîne de distribution. Jean-Marie Kalumba s'est exprimé ainsi hier mercredi après la réunion de conjoncture économique présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. On l'écoute dans cet extrait que nous propose Billy Ivan Lutumba.
Lorsque nous parlons de la structure des prix, que non, la structure des prix concertée, entre nous, gouvernement, les opérateurs économiques et la FEC, concierge 13 éléments. Mais les opérateurs économiques changent la structure des prix d'une manière unilatérale et ils sont à 39 éléments. C'est-à-dire quoi? En dehors de minorer la valeur CIF qui a de l'impact sur les trésors publics, ils ajoutent les éléments non incorporables dans la structure des prix qui touchent également les pouvoirs d'achat de la population. Donc, et les tapers, et les consommateurs, on est en train de les voler. Donc, il y a des indices aperçus. Voilà, en paix des mots, ce que je peux dire à ce niveau. Donc, nous sommes en train de ratisser. Voilà. C'est un combat économique, On s'assume en tant que gouvernement et on va gagner.
Et puis, lancement mercredi du train de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo dénommé New Express Colombe. Il part de Lubumbashi à destination de Kananga dans la province du Kasaï Central. Pour le directeur général de la SNCC, ce train vient répondre aux besoins maintes fois exprimés par les voyageurs qui en étaient privés depuis le mois de mars 2020 à cause de la pandémie de coronavirus. Jean Gandou.
Composé de 10 voitures, ce train, qui a une capacité d'accueil de 192 places, transporte 123 passagers. Seuls 20 ont comme destination la gare de Kananga dans la province du Kasaï Central, où ils arriveront le samedi aux petites heures du matin. Les autres descendront dans les différentes gares situées tout au long du parcours avant la destination finale. D'autres passagers seront embarqués à partir de la gare de Mweneditu dans la province de la Lomami. Ce trafic est donc le premier qu'organise la SNCC après l'interruption survenue au mois de mars 2020 à cause de la pandémie à coronavirus. Les responsables de cette compagnie ferroviaire renseignent que pour prendre place à bord, tout client doit présenter les résultats négatifs au test Covid, les membres d'équipage y compris. Notons que parmi les membres d'équipage se trouve une équipe médicale appelée à intervenir en cas de problème de santé des passagers et une autre chargée de l'hygiène qui a pour mission de désinfecter de temps à autre les voitures. Nous apprenons de la SNCC que ce trafic sera programmé une fois le mois. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Au nord, Ubangi, reprise des cours depuis lundi dernier dans toutes les écoles. Cependant, les enseignants déplorent le non-paiement de leur salaire du mois de décembre 2021. Conséquence, ils ont passé les fêtes de fin d'année dans le dénuement total. La Caritas, qui est chargée de leur paye, n'est pas jusque-là en mesure de les désintéresser. Elle invoque le problème de manque de liquidité à la banque. C'est pourquoi l'abbé coordinateur Régide Lacroix Mbimba a lancé un SOS en faveur de ses clients et fidèles. Pour les directeurs de la BCC, succursale de Gbadolité, la situation est plutôt générale. Elle est due à la forte demande de liquidité exprimée la veille par le PAM et le Fonds social pour le paiement de leurs bénéficiaires. Déjà, l'approvisionnement est en cours et très bientôt, la paye va débuter pour les enseignants, mais aussi pour les fonctionnaires et les hommes en uniforme, a rassuré Adélard Koyakonzi. Autre nouvelle dans la province de la Tchopo, coup d'envoi hier dans la salle de spectacle de l'Alliance française de Kisangani de la campagne de vulgarisation de la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Les membres des différentes associations de cette catégorie de personnes ainsi que diverses autorités politico-administratives ont participé à cette séance animée par la ministre déléguée chargée des personnes vivant avec handicap, Irène Essambou. Un reportage de Jacques Moukokolé.
Une société inclusive où personne n'est laissé pour compte, telle est la vision du chef de l'État à laquelle s'est aligné le Parlement, déclare la ministre déléguée chargée des personnes vivant avec handicap. Ce qui explique l'adoption de cette loi par cette institution. En attendant sa promulgation par le président de la République, il faut réfléchir sur les modalités de son application sur terrain, car, a souligné Irène Essambo, cette loi couvre quasiment tous les secteurs de la vie nationale.
Que ce soit la gouvernance politique, la gouvernance sociale, la gouvernance économique, la loi des personnes avec handicap est dedans. Et avec ça, notre stratégie va concerner les mécanismes d'abord de vulgarisation parce que nous devons renforcer la connaissance de cette loi par tous les acteurs qui interviennent dans ces différentes gouvernances.
Les personnes vivant avec handicap s'en réjouissent puisque, affirme Servin Doumba, cette loi est un instrument qui les protège désormais contre toute forme de discrimination sociale.
Par exemple, ce que nous pouvons nous réjouir, il y a cette disposition liée à la discrimination positive. Par exemple, les recrutements dans un poste, on nous dit qu'on doit donner priorité à la personne en situation d'handicap, mais qui dispose aussi des capacités voulues.
Quelques recommandations ont été formulées par les participants. L'intégration de l'écriture braille dans ce texte de loi. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Actualité internationale.
C'est en principe ce vendredi que la délégation du comité technique chargé de la participation des mouvements politico-militaires au dialogue national inclusif au Tchad achève sa mission préparatoire à Doha au Qatar. Avant l'ouverture du dialogue national inclusif annoncé pour le 15 février prochain par le président du conseil militaire de la transition du Tchad, il fallait régler certains détails relatifs à la participation des mouvements rebelles.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est M. Tommy Tamboué. Il est le coordonnateur national du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation. Avec lui, nous parlons de sa mission à Béni, ainsi que des défis qui se posent pour la réussite de ces programmes dans la région. Tommy Tamboué pense qu'il faut une grande volonté de la population et des bailleurs de fonds pour la réussite de ces programmes. Il s'entretient ici avec André Kitenge. Suivez.
Monsieur Tommy Tamboué, bonjour.
Bonjour, monsieur journaliste.
Vous êtes le coordonnateur national du PDDRCS. Vous êtes à Béni pour faire l'état des lieux du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation à Béni. Peut-on savoir dans un premier lieu comment vous comptez vous y prendre?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis arrivé à Béni et j'ai été émerveillé par l'accueil qui m'a été réservé par la population. Et aussitôt arrivé, je n'ai même pas eu le repos. J'ai commencé par recevoir les autorités politico-administratives, en commençant par ceux qui sont en fonction. Et comme vous le savez, il y a d'autres qui sont en veilleuse, notamment le maire, les bourgmestres, les administrateurs de territoire. Je les ai tous réunis et nous avons parlé. Et par la suite, j'ai réussi à parler avec le commandement du secteur et le commandement qui dirige les opérations conjointes. Après cela, j'ai commencé à recevoir les organisations de la société civile et par la suite, ce matin, c'était pour la plupart les organisations de femmes, les organisations d'appui au programme. Et même, j'ai rencontré le Randi, le Kalungute et partout et nous avons discuté. Et donc, aujourd'hui, je peux me dire que je connais à peu près l'état d'esprit de la population, mais je connais aussi les attentes de la population. Et par rapport à la question du désarmement, nous avons longuement discuté, nous avons réunis un certain nombre d'informations.
Vous êtes dans une zone opérationnelle, vous dites avoir eu déjà quelques éléments par rapport à votre mission. Quels sont les défis qui attendent ce nouveau programme de démobilisation et désarmement?
Bon, les défis sont énormes. Je ne veux pas vous cacher. Quand vous regardez l'espérance de la population croit que c'est le PDDRCS qui va les aider à avoir la paix. Dans la mesure où le PDDRCS va désarmer et démobiliser tous les groupes armés qui équipent la partie de l'Est. Et donc, nous ne le ferons pas seuls, nous le faisons avec l'armée, nous le faisons avec tous les services publics. Et le travail que nous venons de commencer, c'est un travail énorme de consultation. Nous avons des éléments déjà et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il faut vraiment des moyens financiers, il faut une grande volonté pour arriver à avoir le résultat escompté. Le chef de l'État a la volonté, le gouvernement a la volonté, mais il y a une volonté qui doit s'accompagner, c'est la volonté de la population. Mais aussi, quand je suis arrivé ici, j'ai vu que la guerre n'est pas seulement de groupes armés comme tel, mais elle est aussi une guerre politique ici. Il y a ceux qui croient qu'ils seront élus s'il y a l'insécurité, qu'ils vont faire échouer le président de la République parce qu'il y a l'insécurité. Et on va dire qu'il a échoué de réaliser sa promesse de restaurer l'autorité de l'État et ramener la paix à l'Est. Tout se joue à travers cette carte-là. Mais j'appelle la population à ne pas suivre ceux qui sont en train de manigancer pour qu'il y ait l'insécurité, mais qu'ils comprennent que la vie, la paix, la sécurité dépendent d'eux-mêmes. Et donc, marchons ensemble pour avoir la paix.
Il y a eu plusieurs programmes de désarmement, démobilisation dans cette région qui ont presque échoué. Pensez-vous qu'avec ce nouveau programme, c'est la réussite qui pointe à l'horizon?
Oui, ce programme, c'est un programme intégré et collectif. Nous sommes à la quatrième génération. Avant de mettre ce programme en place, il y a eu des ateliers de réflexion pour étudier pourquoi il y a eu l'échec du DDR1, DDR2 et DDR3. Et maintenant, nous avons pris toutes ces leçons et nous avons mis en place un programme. Ce nouveau programme a des innovations. Ce nouveau programme a des spécificités qui donnent la confiance, qui donnent l'assurance à la population. Les anciens programmes n'intégraient pas la dimension communautaire. Mais aujourd'hui, c'est un programme qui intègre les normes et les standards des Nations Unies et de l'Union africaine. Nous avons intégré dedans la justice transitionnelle, nous avons intégré dedans le développement communautaire, nous avons intégré dedans que ce programme est civil, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'intégration automatique des groupes armés dans l'armée et de la police. Il y a beaucoup d'éléments qui sont intervenus là-dedans.
À quoi vous vous attendez après votre mission à Béni?
En tout cas, d'abord, les éléments très importants pour la préparation de la stratégie nationale PDDRCS. Ça, c'est le plus important. Deux, l'engagement des communautés à accompagner le programme. Trois, l'engagement aussi des bailleurs de fonds à accompagner le programme. Ce sont les éléments majeurs des attentes que le PDDRCS ou la coordination nationale attend de ce programme.
Monsieur Tommy Tamboué, je vous remercie.
Merci, monsieur le journaliste.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.